Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Graphite 94.9 et Graphite.net. Je suis Stéphane et je suis en studio avec Oriane, Pauline et Emma. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour à tous. Je suis Oriane et je suis avec les membres de mon groupe, Emma et Pauline. Et nous sommes des étudiants de l'ITC inscrite à l'UVIS 3. Dans le cadre de cette UV, nous allons vous parler un peu du projet sur lequel nous avons travaillé. Notre projet s'appelle Biomonitoring, vers un monitoring de la biodiversité éthique et éco-responsable. Il s'inscrit dans le projet Terraforma du CNRS, initié le 22 janvier 2022. Il vise à étudier, à l'aide d'un réseau de capteurs, les populations d'arthropodes, dans une volonté de faire du monitoring à bas coût et open source, pour étudier les changements environnementaux. Pour répondre à cette problématique, nous avons lu divers articles, élaboré plusieurs produits, dont deux produits phares que nous allons présenter aujourd'hui. Et nous avons utilisé des outils d'évaluation.
Mais qu'est-ce qu'un arthropode? C'est la question que vous devez tous vous poser. Les arthropodes, c'est un sous-groupe d'animaux dont les individus sont composés d'un exosquelette articulé qui peut s'apparenter à une carapace. Elles peuvent être aussi bien terrestres, comme les araignées, les mille-pattes, les insectes en général, ou aquatiques, comme les crabes, les écrevisses. Donc, notre suiveur sur ce projet est Maxime Cauchois. C'est un chercheur à la station d'écologie de Moulis en Ariège. Il travaille sur les conséquences du réchauffement climatique et des activités anthropiques sur le vivant, du point de vue expérimental, mais aussi théorique. Ses recherches actuelles s'intéressent en particulier au déclin des insectes et à leur conservation. Donc, Maxime Cauchois va donc vous présenter brièvement les raisons qui l'ont amené à mettre en place le projet Biomonitoring.
Vous avez sûrement entendu parler ces dernières années donc du déclin, ça date de la fin des années 2010. Les premières études qui ont mentionné en fait vraiment une baisse importante de la biomasse, donc du nombre total et du poids des insectes, suivi dans particulier l'étude qui a fait date, c'est une étude en Allemagne. Où les chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait une baisse de 85% de cette biomasse dans des réserves naturelles. Donc, suite à ça, il y a eu beaucoup d'études. On s'est rendu compte qu'en fait, un peu partout dans le monde, on avait un déclin encore plus prononcé chez les insectes que chez les vertébrés. Le problème, c'est que les insectes et les arthropodes, donc c'est le groupe taxonomique qui inclut les insectes mais aussi les arachnides, les crustacés, etc., représente l'immense majorité donc de la diversité du vivant, et que donc il y a relativement peu d'études par rapport au nombre d'espèces existantes. On est à plus d'un million d'espèces décrites et on a du mal à monitorer convenablement cette population.
Donc maintenant, nous allons vous parler de deux produits phares que nous avons décidé de coupler, donc le réseau d'observateurs bénévoles et l'application mobile participative. Tout d'abord, l'application mobile participative est une application qui vise à développer la science participative en faisant directement prendre part les citoyens dans la recherche scientifique. En effet, en installant cette application sur leur mobile via les plateformes de téléchargement classiques, tout citoyen pourra prendre des photos, des vidéos et des enregistrements sonores d'arthropodes et les déposer sur cette application. En contrepartie, une description sur l'espèce observée sera visible par l'utilisateur après le dépôt de son fichier sur l'application. Ainsi, cela permettra aux scientifiques spécialisés de récolter un grand nombre d'échantillons et de progresser dans leurs recherches. En effet, les insectes représentent environ 80% des êtres vivants sur Terre et 80% restent non décrits. Ces chercheurs pourront également faire des demandes de clichés particuliers et donner des indications visibles sur l'interface utilisateur pour que ces derniers aient plus de facilité à trouver les individus à observer. Je vais maintenant vous lire un extrait de notre maquettage concernant l'alimentation de l'application par le scientifique. En plus de récolter pour ses recherches les photos ou vidéos déposées par les utilisateurs sur l'application, l'expert en myriapodes, donc en mille-pattes, Jean-Claude, peut aussi faire des demandes de clichés d'une espèce en particulier. Sa dernière requête était une photo de Saint-Phil, qui est un myriapode se trouvant dans la litière et le sol des forêts ou dans les vieilles souches. Cette demande s'affichera sur l'onglet « Suggestions » de l'application consultable par tous les utilisateurs. En plus du nom de l'espèce, on peut y trouver les endroits les plus probables ou trouver les individus en question, c'est-à-dire la zone géographique, le moment de la journée ou bien si on peut les trouver sous terre ou non. De plus, Jean-Claude peut compléter la description que les utilisateurs verront sur l'application. Cette application participative vise à lotéquiser le biomonitoring des arthropodes. En se focalisant sur la demande de clichés des experts dans l'onglet « Suggestions » de l'application, nous pouvons parler de la responsabilisation et de la convivialité de cet outil du biomonitoring. Du côté de la responsabilité, cette application permet d'intégrer les citoyens dans les travaux de recherche et de leur donner de l'importance dans la préservation de l'environnement et ainsi dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle crée également un lien de proximité entre les chercheurs et les citoyens, qui est assez rare. Maintenant, du côté de la convivialité, cette application permet de faire avancer la science sur des points peu explorés par le développement de prises d'échantillons photos ou vidéos, en particulier concernant les espèces peu décrites. De plus, cette application participative agira en tant que levier d'optimisation, étant donné qu'elle permettra d'augmenter la vitesse de récolte d'informations sur des espèces précises. Cependant, on peut se demander si l'implication des citoyens aboutira à l'observation des espèces peu décrites. Elles peuvent être difficilement accessibles, ou bien on peut avoir peu de connaissances sur leur habitat naturel. Maintenant, je vais donner la parole à Oriane.
Je vais donc maintenant aborder notre second produit phare, le réseau d'observateurs bénévoles formés. Au travers des histoires « Ensemble pour surveiller la biodiversité » et « Formation au biomonitoring participatif » que vous pouvez retrouver sur notre site, nous avons explicité l'idée d'utiliser la science collaborative pour suivre les populations d'insectes et aider les chercheurs à faire des prévisions sur les impacts du changement climatique sur les insectes. Le système réseau de bénévoles formés permet d'abord aux spécialistes en arthropodes de chaque région de remplir un formulaire d'inscription au projet biomonitoring participatif. Ensuite, il permet aux référents du projet de recruter les spécialistes. Par la suite, le système permet aux citoyens bénévoles de s'inscrire à leur tour au projet avec une lettre et un entretien qu'ils passeront avec les spécialistes recrutés. Et les spécialistes vont montrer ensuite aux bénévoles comment prendre des photos des insectes dans la nature. Le système permettra également aux citoyens bénévoles de déposer leurs clichés sur un forum privé sur lequel ils se connectent avec leur identifiant et le mot de passe qui leur est fourni. Sur le forum, les citoyens bénévoles peuvent envoyer des messages et des médias à un des référents, notamment donc des photos. Ce produit met en avant des valeurs comme la responsabilité. Chaque citoyen va pouvoir s'impliquer dans le processus de collecte de données scientifiques, mais également de soutenabilité. Puisque les bénévoles ne vont pas perturber les écosystèmes, grâce à la formation, chaque bénévole sait comment se comporter et prendre des photos sans être invasif. En outre, la convivialité est de mise, puisque le matériel photographique est mis en commun et la formation le rend plus accessible et facilite sa manipulation. C'est aussi un bon moyen d'alerter et de sensibiliser les populations sur les espèces menacées. Cependant, il faudra compter sur la conscience collective pour qu'un certain nombre de bénévoles s'inscrivent et suivent la formation. Si peu de personnes décident de s'engager, peu de données seront collectées. Certains d'entre vous se demandent sûrement pourquoi il est important d'étudier l'évolution des populations d'insectes pour les préserver et donc en quoi les insectes sont-ils vraiment nécessaires à l'équilibre des écosystèmes. À travers cet extrait nommé « Les insectes sont-ils vraiment nécessaires ?» et publié par la chaîne YouTube du complexe muséal « Espace pour la vie à Montréal », nous vous proposons de découvrir des faits fondamentaux sur les insectes.
À l'image des super-héros de bande dessinée, les insectes travaillent dans l'ombre et volent à notre secours sans qu'on s'en rende compte. Ils remplissent avec brio 4 services écologiques essentiels à notre survie. Premièrement, ils sont la nourriture de nombreux animaux, comme les oiseaux ou les humains. On compte près de 2 milliards de personnes sur la planète qui mangent des insectes. Ensuite, ils sont parfois prédateurs. Ils permettent ainsi de réguler la population d'insectes ou d'autres animaux. Aussi, les insectes sont d'efficaces décomposeurs qui nettoient le monde de ses déchets. Enfin, ils sont les principaux pollinisateurs des plantes qui nous entourent. Ils assurent comme ça la reproduction des végétaux et le développement des fruits. Par-dessus tout, les insectes nous fournissent au quotidien mille et une raisons de nous émerveiller.
Et donc maintenant, nous allons passer à la partie évaluation du projet. Donc, dans le cadre de l'UVIS3, l'outil Diamant, inspiré des travaux de Jared Diamond, dans son ouvrage Effondrement paru en 2005, nous a été proposé. Donc cet outil, il permet d'évaluer notre projet en classant les points positifs et négatifs de notre projet en 5 catégories, qui sont les impacts, la résilience, la compétition, la réaction et la coopération. En voici quelques exemples tirés de notre projet. Donc tout d'abord, on peut se demander, ma proposition modifie-t-elle l'impact de la société qui l'adopte sur l'environnement ? Donc tout d'abord, l'impact est positif. Cet impact mis en avant est la création d'une dynamique de recherche avec un travail d'équipe entre les chercheurs et les citoyens. C'est ce qu'on appelle de la science participative. En revanche, l'application va favoriser l'utilisation du téléphone qui peut entraîner à long terme une addiction. On peut s'attendre à une augmentation de l'utilisation de bases de données pour stocker les données de l'application, ce qui est très énergivore et donc polluant. En deuxième lieu, on peut se demander en quoi notre proposition modifie-t-elle la protection de la société qui l'adopte aux changements environnementaux subis. C'est ce qu'on appelle donc la résilience. Sur le point de la résilience, on acquiert une nouvelle connaissance individuelle via l'application qui va favoriser la protection et la conservation de la biodiversité. La biodiversité étant très impactée par cette crise climatique, sa conservation est donc cruciale. Et cette nouvelle connaissance permet aussi de mieux comprendre le monde qui nous entoure et donc nous permet de mieux le préserver. On peut donc aussi se demander, sur le point de la compétition, en quoi notre proposition va-t-elle modifier les relations de la société qui l'adopte avec des sociétés ennemies. Donc le projet Biomonitoring, il va permettre de diffuser le savoir acquis dans différents pays, notamment ceux moins équipés en technologie de surveillance, notamment avec les bases de données qui seront internationales et permettra peut-être à long terme, on l'espère, des nouvelles activités agricoles plus durables, remplaçant les pesticides par des insectes, par exemple, qui vont manger d'autres insectes. En quoi ma proposition modifie-t-elle les relations de la société qui l'adopte avec des sociétés amies ? Donc là, c'est la coopération. On a avec ce projet une coopération entre les experts et les citoyens via toujours l'application mobile et le réseau de bénévoles en analysant les données récoltées par les citoyens qui sont ensuite mises dans des bases de données communes et internationales par les scientifiques. En quoi la proposition modifie-t-elle la capacité de la société qui l'adopte à réagir aux problèmes rencontrés, c'est donc la réaction. Et notre projet, il permettra de capitaliser les informations sur les insectes et les arthropodes en général, et donc de mieux réagir lors de crises à venir, notamment celle de la perte de la biodiversité. En revanche, l'utilisation des smartphones pour obtenir ces informations risque à long terme de faire perdre notre capacité à étudier la biodiversité sans l'aide de ces technologies et donc d'en devenir dépendant.
Donc pour conclure, le projet Biomonitoring s'inscrit dans une démarche de low-techisation afin de surveiller et d'en apprendre plus sur les insectes, notamment leur mode de vie et leur potentielle interaction. Pour ce projet, nous avons donc envisagé la création de 2 produits qui peuvent s'associer. Un réseau d'observateurs bénévoles et une application mobile de référencement d'arthropodes. Divers outils d'évaluation, de maquettage et d'autres encore, ont été mis à notre disposition pour affiner et rendre nos produits et notre raisonnement de plus en plus concrets. Ils nous ont aussi amenés à envisager les possibles impacts et effets rebonds de nos produits. Merci pour votre écoute.
Merci à toutes les trois. Alors, on a plein de réactions très chouettes de vos collègues. Je vais commencer peut-être par la dernière de Blanche du groupe Rita qui pose la question, et peut-être je vais la combiner aussi avec celle de Lola du groupe Fédéripère. Je vous en fais deux questions en une. Blanche demande en fait si ce dispositif finalement se substitue à d'autres choses, c'est-à-dire si avant on mesurait ce qui est maintenant mesuré à travers votre projet avec d'autres outils techniques ou si ça vient s'ajouter. Et elle se demande si on ajoute, bah peut-être que du coup on n'est pas vraiment dans la low-techisation ou dans la fermeture, mais on est en train de rajouter du numérique. Hein. C'est un peu ce qu'on a vu déjà dans le premier projet tout à l'heure à AGTech, où on vient rajouter finalement du numérique à un endroit où il n'y en avait peut-être pas ou moins. Et puis Lola du groupe Fédéric Ripper pose une question qui est un petit peu en lien, c'est-à-dire qu'elle dit finalement pourquoi rajouter des robots ou des capteurs du numérique d'une façon générale là où finalement des humains peuvent peut-être faire le travail. Donc est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ces aspects? Vous en avez déjà parlé un petit peu, mais on peut peut-être compléter.
Ok, alors initialement le biomonitoring et le monitoring en général, il se fait avec des capteurs. Mais il y a une recherche de toujours vouloir des capteurs plus performants et donc les changer toutes les 5 minutes. Et donc là, en fait, ça serait pour éviter de tout le temps les changer, voire même diminuer le nombre qui est dans la nature. Comme ça, on n'a pas une présence trop invasive avec des capteurs partout dans nos forêts. Et on aurait du coup les citoyens qui remplaceraient ces capteurs qu'on a enlevés. Et eux, ne seraient normalement pas là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc moins invasifs.
Et on se base sur les téléphones qu'ils possèdent déjà. Ça faisait partie de vos arguments.
Oui, c'est ça.
Du coup, ça rajoute pas de...
C'est ça. En fait, dans un premier temps, je pense que notre projet, c'est... surtout, les objectifs de nos produits, c'est de se coupler aux capteurs qui existent déjà. Donc, d'aider un petit peu les chercheurs, surtout avec la science collaborative qui fait participer le reste des citoyens. Et par la suite, si la science collaborative et les produits mis en place sont assez performants et fournissent assez de données à la recherche, l'objectif, ce serait justement de réduire les capteurs qui sont déjà présents dans la nature, en fait.
Ok, merci de ces précisions. Toujours un petit peu dans la même ligne, c'est-à-dire les risques, en fait, finalement, associés à nos projets. On a vu que c'était un trait assez important de l'UVIS03 dans laquelle, qui explique notre présence ici à la radio, c'est de se poser des questions sur les effets parfois indirects des technologies que l'on déploie. Donc, dans ce cadre-là, il y a Louise du groupe SOS Capteur qui demande si... pour que est-ce que on va dépendre par exemple des ondes téléphoniques, des données cellulaires, est-ce qu'on va dépendre d'une infrastructure de type 3G, 4G, 5G, 6G, 7G pour collecter des données? Et si c'est le cas, on voit que le risque un peu, c'est qu'à un moment on pourrait justifier justement d'augmenter de la couverture de territoire, parce que alors comme elle le soulève évidemment en pleine forêt ou je sais pas moi en plein milieu de marais ou enfin dans des zones un peu reculées, il n'y a pas forcément de couverture. Et donc ça pourrait justifier finalement d'augmenter la couverture et donc de développer de nouvelles technologies ou d'en déployer plus.
On n'a pas forcément besoin de connexion tout de suite. On peut prendre une photo avec notre téléphone et ensuite la déposer sur l'application quand on rentre chez nous. Donc on n'a pas besoin de développer un réseau internet ultra performant sur tout le territoire français. Donc... une simple 4G peut suffire.
Ou même effectivement, puisque c'est asynchrone, en fait, on peut prendre la photo et puis même, pourquoi pas simplement se connecter en Wi-Fi chez soi et puis retransmettre à ce moment-là, n'est-ce pas?
Oui.
Oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Il n'y a pas besoin d'augmenter la couverture réseau, même dans des villages, par exemple, un peu isolés ou dans la forêt, puisque c'est, comme vous l'avez dit, plutôt asynchrone comme méthode.
Oui, on n'a pas besoin de l'information ici instantanément. Ok, bah merci beaucoup à vous. Maintenant, il y a deux, trois questions qui sont peut-être plus en forme de suggestions. Donc, je vous les soumets. Si vous avez envie de réagir ou de compléter, vous pouvez. Mais on a Élodie du groupe L'Ocyclopédia qui demande en fait si vous avez imaginé des pistes pour guider un peu les utilisateurs. Encore une fois, je vais la faire tout sous forme de proposition. Elle insiste sur le fait qu'il faudrait aider en fait les utilisateurs, notamment pour garantir la diversité des insectes répertoriés, comme vous l'avez dit, comme on l'a vu dans l'extrait. Ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insectes. Alors, allez prendre en photo des abeilles ou des petits bourdons sur sa lavande, on voit bien. Mais vous avez parlé de crustacés qu'on imagine peut-être au fond des océans, ou d'insectes qu'on trouve, qui sont peut-être tout petits, qu'on trouve pas facilement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à la fin, on va pas avoir plein de photos d'abeilles et de libellules et pas assez d'autres insectes qui seraient tout aussi importants? Est-ce que vous avez des idées là-dessus, ou... Sinon, on peut peut-être le garder comme une piste, hein, c'est comme vous voulez.
Bah, c'est pour ça qu'on avait pensé au chercheur qui fait ses demandes explicitement avec plein de détails sur notamment comment les trouver, quand, etc. Pour les insectes déjà pas trop connus, forcément on va préférer aller prendre un joli papillon en photo plutôt qu'un mille-pattes. Après, il y a peut-être des gens qui aiment les mille-pattes, mais souvent on va prendre en photo ce qu'on connaît. Donc le fait de mettre dans l'annonce plein de détails, ça va nous aider notamment du coup à aller vers ce qu'on connaît pas. Puis ça peut faire un petit challenge en se disant, oh, bah tiens, je le connais pas, si je le trouve.
Notamment aussi au niveau de je rebondis sur ce que tu viens de dire, un petit challenge au niveau de l'application, on a imaginez une version premium qui fait que, en fonction de ce que l'utilisateur va déposer sur l'application, il va y avoir un petit classement qui va se faire entre les utilisateurs, donc en termes de points, justement, pour instaurer ce petit challenge de trouver un insecte qui n'a pas encore été trouvé sur l'appli. C'est comme ça qu'on peut s'imaginer divertir les utilisateurs de l'appli et leur donner envie de l'utiliser.
Ok, bah ça répond aussi en partie hein, à la question de Blanche, donc dernière question-suggestion que je vous propose du groupe Rita, qui demandait en fait comment inclure des personnes qui habitent dans des villes qui du coup n'ont pas de jardin, alors en même temps des mille-pattes ou des araignées, je crois qu'il y en a aussi dans certaines villes. Mais elle parlait par exemple peut-être de suggérer des endroits où les trouver avec des cartes, d'indiquer les zones, etc. Mais comme vous l'avez dit, cette idée de collaboration avec les chercheurs, en quelque sorte, ça anticipe un peu ça, puisque les chercheurs, ils ont ces connaissances, ils vont donc pouvoir les transmettre aux citoyens, qui eux vont s'en emparer, alors soit avec des jeux ou par intérêt, enfin vous avez cité plusieurs leviers, et puis à partir de là, ils vont renvoyer les informations. Donc là, cette notion de science participative sur laquelle vous avez insisté, elle est vraiment utile, parce qu'elle permet de profiter justement des savoirs spécifiques des chercheurs, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin d'observer, comment on le fait, etc. Et puis de la masse des non-chercheurs qui du coup peuvent contribuer chacun, même modestement, mais en étant guidés. Et voilà, je ne sais pas si ça vous inspire une autre remarque, hein, je me contentais de reformuler ce que vous nous avez expliqué.
Même si en ville on n'a pas autant de diversité au niveau des arthropodes, la contribution de chaque citoyen, que ce soit juste 5 minutes dans une journée, peut permettre de vraiment faire avancer la science, étant donné que si on arrive à développer l'application sur au moins, je sais pas, la moitié de la population française, il y aurait vraiment, je pense, des découvertes, des découvertes sur de nouvelles espèces ou des comportements qu'on soupçonnerait pas.
Ok, donc passer un petit peu de notre temps, qui d'ailleurs est toujours un temps qui peut se passer derrière le téléphone, mais à faire d'autres choses que ce qu'on fait parfois avec nos téléphones. Et merci beaucoup, Oriane, Pauline et Emma, pour la présentation de votre projet Biomonitoring. On est sur Graphite 94.9. Cet après-midi, donc on présente les étudiantes et les étudiants du cours IS03 présentent ce qu'ils ont réalisé ce semestre, donc dans le cadre du cours Low-techisation et numérique. On a déjà parlé aujourd'hui du projet AGTech. Juste avant, on a parlé du projet Hémodialyse Low-techisée. Là, c'était donc le projet Biomonitoring. Et puis, le dernier projet, d'ici un gros quart d'heure, 20 minutes, eh bien, ce sera l'arbre à chatons. Alors, je laisse le mystère derrière ce terme. Eh bien, sauf si vous avez un dernier mot.
Non, pour moi, ce serait tout.
Merci pour votre écoute.
Oui. Eh bien, merci à vous pour votre présentation. Et puis, à une prochaine fois. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.